travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Démocratie, parce que d'abord, ce sont les moines qui élisent l'abbé. On sait qu'il va y avoir une élection. Donc, il est entendu, même à l'époque où le silence était considéré comme un idéal absolu, on parlait entre soi pour même déblayer un petit peu les choses.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Là, les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. À force de voir notre actualité dominée par la pratique du suffrage collectif, le goût vient souvent de rechercher dans le passé les racines de cette pratique si profondément installée dans nos mœurs politiques. Nous sommes parfois retournés à ce micro, non sans motif, vers l'antiquité gréco-romaine, aux origines de la démocratie. Mais il peut être également stimulant, même si c'est plus surprenant au premier abord, d'aller vers un autre univers, celui du Moyen-Âge occidental. L'élection des gouvernants, par la base, semble le système le plus contraire possible à la structure et aux équilibres de la société de ce temps-là. Et pourtant, il vaut la peine de secouer cette idée trop simple et trop convenue en scrutant la manière dont l'Église, à l'intérieur d'elle-même, a été conduite alors à organiser la désignation de ses dirigeants à partir de la volonté du peuple des clercs, et de découvrir comment une façon de démocratie, certes tempérée de diverses manières, mais cependant avérée, y a vu le jour. Mon invité, Jacques Dallarin, ancien directeur des études médiévales à l'École française de Rome et directeur de recherche au CNRS, s'est attaché à l'histoire de ce surgissement et à comprendre comment l'Église, pour échapper à la domination seigneuriale venue du dehors, a été conduite à trouver en elle-même un art de gouverner, qui peut apparaître à la réflexion et à condition de ne pas forcer le trait, comme une des sources de l'organisation des pouvoirs contemporains, avec une légitimité venue non pas d'en haut, mais d'en bas.
Comment as-tu pu prendre cette décision sans réellement nous consulter? L'heure est trop grave pour nous tous.
Et qu'aurais-tu fait à ma place?
J'aurais attendu de vous avoir parlé pour connaître la position de chacun.
Et pour répondre quoi, au final?
Mais peu importe la réponse, c'est le principe même de la communauté qui est remis en question dans ton attitude.
Bien. Alors, qui veut aujourd'hui la présence de l'armée dans le monastère?
Tu ne veux pas comprendre ce que nous te disons?
Mais je comprends très bien. Mais aucun d'entre nous n'a pris la décision de vivre ici pour être sous la protection d'un gouvernement corrompu. Dites-moi si j'ai tort.
Christian, nous ne t'avons pas élu pour décider seul.
Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère? On se laisse tuer gentiment?
C'est un risque, oui. Mais nous avons été appelés à vivre ici, dans ce pays, avec ce peuple, qui a peur lui aussi. Nous allons vivre avec cet inconnu, oui.
Personnellement, je ne suis pas venu ici pour participer à un suicide collectif.
Ben, on pourrait peut-être déterminer ce que chacun de nous peut faire s'ils viennent jusqu'ici.
Qu'est-ce que tu veux faire? Regarde les Croates.
Ben, jouer à cache-cache.
Jacques Dallarin, bonjour.
Bonjour.
Je suis sûr que vous avez reconnu un extrait du film qui a eu tant de succès, du film Des Hommes et des Dieux, le film de Xavier Beauvois, le film de 2010 qui a été couronné de toutes parts avec le Grand Prix du jury à Cannes en 2010 et qui a surtout été vu par des millions de Français. Et vous avez reconnu en particulier le rôle de Lambert Wilson dans le rôle du frère prieur Christian, et ces moines en Algérie qui décident de rester en dépit des périls qu'ils courent.
Oui, c'est à mon avis un des moments les plus émouvants d'un film très émouvant. Or, ce moment-là est institutionnel. Ce qui est mis en cause par la communauté, ce petit prieuré de Tibirine, ce n'est pas la décision, le contenu de la décision de Christian de Chergé, c'est la manière dont il a pris cette décision, c'est la procédure. C'est une affaire de procédure, mais qui est fondamentale, puisque ce qui est en jeu, c'est la communauté, c'est le gouvernement de la communauté.
Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette procédure ?
Eh bien, le prieur, qui a été élu par le reste de la communauté, a pris une décision sans utiliser ce que l'on appelle au Moyen-Âge le droit et devoir de conseil. On doit prendre conseil des autres. Et il a sauté cette étape pour prendre une décision qui va finalement être celle du groupe, mais qui sera entre-temps devenue collective.
Il a été désigné par l'élection.
Il a été élu par ses frères dans la tradition bénédictine. Le prieuré de Tibirine était un prieuré de trappistes, c'est-à-dire une réforme des cisterciens qui était eux-mêmes une réforme de l'ordre bénédictin. On est dans la tradition médiévale réactivée par ces observances modernes.
Alors, Jacques Dallarin, nous allons regarder de près comment s'organise cette sorte de démocratie à l'intérieur de l'Église. Est-ce qu'il ne faut pas partir pour comprendre cette conception renversée du pouvoir par rapport au monde médiéval qui entoure les monastères? Est-ce qu'il ne faut pas partir finalement de l'exaltation de l'humilité par l'Église, de l'exemple du Christ avec l'idée que les derniers seront les premiers?
On a déjà touché à deux paradoxes fondamentaux. Le premier, c'est que dans un monde, le monde médiéval, qui est un monde de dominium, de domination, avec des seigneurs, des domini, il y a une institution centrale, l'Église catholique romaine, qui, elle, se réclame constamment de l'humilité. Le deuxième paradoxe, c'est que, du côté de la société laïque, le mode de transmission du pouvoir le plus fréquent est biologique.
Dynastique.
Il est dynastique. On imite les dynasties royales jusque dans les châteaux. Il y a une patrimonialisation des fiefs et une hérédité des charges. Or, au sein de l'Église, et à commencer par les communautés monastiques, ça n'est pas possible car ils ont choisi une règle qui est celle de la chasteté. Donc il n'y a pas de transmission biologique possible. À partir de là, il faut inventer.
Alors on invente comment ?
Eh bien on invente en ayant recours à l'élection. Simplement, le terme d'élection tel que nous l'employons à l'heure actuelle, vous avez tout à fait raison de mettre en garde sur les risques d'anachronisme. Le terme d'élection tel que nous l'entendons à l'heure actuelle n'est pas le sens qu'on donne à ce terme au Moyen-Âge. Élire au Moyen-Âge, c'est chérir, c'est aimer. Le peuple élu, c'est le peuple aimé de Dieu. Les élus de Dieu qui siégeront à sa droite, ce sont les justes aimés de Dieu. Donc l'élection au Moyen-Âge ne décrit pas une procédure électorale, mais dit simplement qu'il y a eu choix. Les modalités du choix, après, sont complexes. Mais elles reposent néanmoins sur le principe que la communauté sera gouvernée par la personne qu'elle a désignée pour être à la tête de la communauté.
Et là, on est au cœur de ce qui peut apparaître comme notre système actuel de désignation par la base, dans cet affrontement, en somme, entre une société d'ordre avec une idéologie qui valorise les simples et qui leur rend le pouvoir.
Mais c'est ça qui me semble le paradoxe moteur en même temps de la société médiévale, c'est que cette religion chrétienne qui est ce qu'on appellerait l'idéologie dominante de la période a, par bien des aspects, conforte l'ordre social, mais par certains aspects vient le titiller, le remettre en cause. Je me suis permis d'écrire que la croix du Christ était à la fois la charpente et les chardes des sociétés médiévales.
Quelle image !
Ça pique.
Ça pique, c'est du bois. Donc pour comprendre les choses, il faut partir du plus haut temporellement, je veux dire, au moins pour l'Occident, la règle de Saint-Benoît, du Mont Cassin.
Fondamentale, écrite vers 530, mais surtout diffusée et imposée à la plupart des monastères d'Occident à la période carolingienne, en 817, c'est le moule de tout le monachisme occidental.
Avec une règle qui pose déjà un certain nombre de questions directement liées à notre interrogation d'aujourd'hui, c'est-à-dire la manière dont sont désignés en particulier les abbés et le rôle qui peut être le leur. Et pour parler de ça, il faut peut-être d'abord considérer l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes, la manière dont la règle de Saint-Benoît dessine ce que doit être le rôle de ces dirigeants élus par les autres. Écoutez ce qu'en dit le père Marie, qui est un bénédictin de l'abbaye Notre-Dame de Tournai dans les Hautes-Pyrénées et qui est interviewé par Arnaud Laporte dans l'émission Le Pays d'ici sur France Culture, bien sûr, le 17 août 1995. Le père Marie.
Retour en direct à Tournai avec vous, père abbé, père Marie. Comment est-ce que vous concevez votre charge de père abbé ?
Écoutez, je vais vous citer un texte de Saint-Benoît et je l'introduis par un petit chapeau. Pour moi, l'abbé, certes, il a exercé l'autorité, mais l'autorité au sens où il doit faire aider les gens à croître. L'abbé est au fond de lui-même un serviteur. Je crois que ça doit être un être plein d'humanité et un homme discret. Si l'abbé tient la place du Christ... Christ est un homme qui est essentiellement référé à celui qu'il appelle son Père. Et l'abbé, dans ce qu'il est, doit, par sa prière, sa manière d'être, signifier qu'il est référé à un autre, qui n'est pas le grand chef. Et voici le texte de Saint Benoît que je vous citais au chapitre 64. L'abbé saura qu'il doit plutôt servir que régir. Il doit donc être savant dans la loi divine, pour savoir et avoir d'où tirer le neuf et l'ancien, chaste, sobre, miséricordieux, et que la miséricorde l'emporte toujours sur le jugement, afin qu'il obtienne pour lui le même traitement, qu'il haïsse les vices, qu'il aime les frères, dans ses réprimandes même, qu'il agisse prudemment et sans rien de trop, de peur qu'en voulant trop gratter la rouille, il ne brise le vase. Il ne perdra jamais de vue sa propre fragilité et il se souviendra qu'il ne faut pas écraser le roseau cassé. Il s'efforcera d'être plus aimé que redouté.
Et là, dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'adapter la règle. Là, vous la suivez à la lettre.
Écoutez, c'est la règle qui nous façonne. On peut l'adapter en ceci, en cela, mais vraiment, on est façonné par une expérience, un texte qui a encore beaucoup à dire parce que justement, il ne cherche pas à être actuel.
Ce chapitre 64, Jacques Dallarin, de la règle de Saint-Benoît, nous introduit tout droit à cette donnée majeure, c'est-à-dire ce passage de l'humilité à l'humiliation, servir plutôt que diriger, tout en gardant l'autorité qui est celle du père abbé.
La première chose qui est impressionnante, c'est de voir que dans les années 1990, cette règle qui date de 530 à peu près est toujours vivante. Hein.
Extraordinaire pérennité.
Le père abbé dit à la fin qu'elle n'est pas d'actualité, mais elle n'est pas actuelle, elle est vivante, c'est peut-être encore plus fort. Oui, et au centre, la figure éminente du monastère, l'abbé, doit évidemment avoir une très forte autorité, doit être digne de sa charge, avoir une très forte autorité, mais il doit également être pétri d'humilité. On est donc dans un système d'humilité réciproque. Les frères lui doivent une totale obéissance, une obéissance, je dirais, absolue, presque une autorité totalitaire à certains égards. Mais lui doit en même temps se distinguer par son humilité. Et vous savez, le latin est une langue merveilleuse, ça se dit, Benoît le dit, de deux mots, deux composés du verbe être. Prodesse plutôt que praesse, être pour plutôt qu'être au-dessus.
Il reprend Saint Augustin également en disant qu'il faut que l'abbé sache aussi qu'il doit servir plutôt que diriger.
Absolument, la Benoît s'inspire d'Augustin avec le même jeu sur les deux verbes et sur les préfixes. Donc servir plutôt que l'emporter sur, plutôt que dominer, c'est un gouvernement par le bas, par le dessous.
Avec cette idée qui se rattache directement à l'Évangile, au chapitre de l'humilité, elle nous proclame, frères, l'Écriture divine, tout homme qui s'élève sera humilié et qui s'humilie sera élevé. Plus que dans nos démocraties modernes, il y a un grand péril à devenir ministre au sens originel du terme, c'est-à-dire serviteur.
Oui, mais l'obéissance absolue qui est requise des frères est en quelque sorte compensée comme une sorte de sacrifice anticipé par l'humilité de l'abbé. C'est un très étrange système.
Cela a été au point que certaines communautés monastiques ensuite ont poussé le paradoxe jusqu'à vouloir mettre à leur tête par principe des membres de la communauté a priori indignes de la charge qui leur était confiée. Là, on arrive à l'extrême pointe d'un paradoxe.
Oui, ce christianisme entièrement fait de renversements successifs, un certain nombre d'expériences religieuses, pas les plus nombreuses, mais peut-être les plus frappantes, ont poussé à bout la logique de Benoît, et dans des communautés qui comportaient plusieurs catégories internes, ont décidé de confier systématiquement le pouvoir à la catégorie, disons, au regard des mentalités du temps, la plus méprisée. Ce sont par exemple dans la communauté d'hommes et de femmes de Fontevraud, communauté mixte, le gouvernement va être confié à une abbesse. Et à l'intérieur des femmes de Fontevraud, il y a des vierges et des non-vierges. Bien évidemment, au Moyen-Âge, la virginité l'emporte sur tout le reste en vertu. Eh bien, on confiera le gouvernement à une femme non-vierge.
Ce n'est pas un signe du tout de féminisme, au contraire. C'est une manière de marquer l'infériorité de la femme puisqu'on décide de la promouvoir, en somme, paradoxalement toujours.
Pour les frères, c'est une humilité qui confine à l'humiliation puisqu'ils obéissent à moins digne qu'eux. Il n'empêche que dans les faits, c'est tout de même une femme qui va diriger cet ordre de Fontevraud de 1101 à 1791, donc c'est tout de même impressionnant, ça a existé. Une femme a été à la tête d'une communauté nombreuse, ramifiée au spirituel comme au temporel, avec une très forte autorité. Et en allant à l'encontre des dignités reconnues par la morale et la société, on met en avant une autre idée qui nous est chère, celle de la compétence. Refuser la dignité évidente, c'est aussi se demander qui est le plus compétent pour remplir une tâche. Et le fondateur de Fontevraud, Robert d'Arbrissel, explique sa décision en disant « Si je confie la direction à une vierge, elle ne sait que chanter les psaumes, tandis qu'une femme qui a connu le monde saura s'occuper des affaires. C'est Marthe qui est préférée à Marie. »
Déjà, avec d'Arbrissel, avec Fontevraud, on a passé la période, ce tournant essentiel qui est la réforme grégorienne.
On est en plein dans son élan.
On est dans son élan avec tout à coup l'affirmation d'une importance accrue du vote. On développe ce qui a pu apparaître déjà dans le monde bénédictin avec de nouveaux enjeux pour les monastères. Si je comprends bien, à partir du moment où le pape n'est plus imposé par l'empereur, où les évêques et les abbés ne sont plus désignés de l'extérieur, où l'Église donc protège sa spécificité contre ce pouvoir temporel, il faut élaborer des procédures électives au sein du collège des cardinaux, des chapitres cathédraux, des communautés monastiques de toutes sortes, c'est bien ça?
Cette réforme dite grégorienne, en référence au pape Grégoire VII, troisième quart du XIe siècle, nous sommes un certain nombre d'historiens à la considérer comme un des grands tournants du Moyen-Âge. Et effectivement, c'est le moment où l'Église décide de se libérer de l'emprise des laïcs au nom de la libertas ecclesiae, la liberté de l'Église.
D'où un moment d'intense inventivité démocratique.
Mais bien évidemment, parce qu'on ne se confie plus à l'influence des puissants de ce monde, de l'empereur pour désigner le pape, du roi pour désigner les évêques, du maître de château, du seigneur local pour désigner le curé. Et pour que l'Église arrive à vivre comme appareil autonome, il faut donc, comme la règle du célibat au départ monastique s'étend à l'ensemble du clergé, y compris au clergé séculier, il n'y a plus ni l'influence ni l'hérédité, donc il faut des élections.
Alors c'est là qu'on trouve une des origines, passionnantes évidemment, vue d'aujourd'hui, une des origines de notre système électif démocratique. Il faut que nous nous y attardions un instant, Jacques Dallarin. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que la réforme grégorienne se concrétise dans la vie de l'Église à partir de ce tournant du XIe siècle?
Eh bien, systématiquement, pour toutes les charges, aussi bien dans les communautés monastiques que dans l'Église séculière, les évêques et jusqu'au pape, ce sont des élections qui vont désigner les responsables. Dans la tradition monastique, nous l'avons vu, l'abbé était traditionnellement, au terme même de la règle bénédictine, désigné par ses moines, mais dans un grand nombre de cas, les grandes familles locales avaient pris le pouvoir en réalité dans ces abbayes. Donc retour à la désignation de l'abbé par la communauté. Dans le cas des évêques, l'acclamation populaire n'était pas une bien grande contrainte et elle n'empêchait pas les influences des puissants. L'élection des évêques va donc être confiée à partir de ce moment à un chapitre, c'est-à-dire à un groupe de chanoines qui entoure l'évêque, qui est comme une sorte de sénat autour de lui. Et quant au pape, il va, à partir de cette période, le milieu du XIe siècle, il va être élu par le collège des cardinaux.
Comment est-ce que cela se passait auparavant pour les papes ?
Auparavant, c'était l'empereur qui décidait, depuis la période carolingienne, ensuite avec les empereurs ottoniens et leurs successeurs, c'est l'empereur qui imposait son candidat. Ou alors, c'était une lutte entre les grandes familles romaines qui poussaient au pouvoir le représentant de la faction la plus puissante du moment.
Mais là, ça va durer. On voit encore, par exemple, dans les mémoires du cardinal de Retz, on voit comment, en tant que Français, il s'efforce de peser de l'extérieur à partir de pouvoirs temporels et en rivalité avec d'autres cours européennes, de peser sur la désignation du prochain souverain pontife.
Mais bien évidemment, parce que l'histoire est un éternel recommencement et qu'il y a une tension permanente entre la volonté de prendre en main cet appareil ecclésial qui est tellement convoité, puisqu'il permet tout de même de modeler les esprits, c'est là son immense pouvoir. Et d'un autre côté, cette volonté d'autonomie qui s'appuie en partie sur le message évangélique pour proclamer une indépendance du spirituel par rapport au temporel. On est au cœur d'un conflit qui n'est pas résolu avec la réforme grégorienne. Il y a de permanentes réformes pour essayer d'aller dans le sens de la liberté de l'Église et d'un autre côté, de permanentes tentatives pour reprendre le pouvoir sur cet appareil qui modèle les esprits.
Est-ce que vous diriez que les conclaves successifs qui ont désigné les papes peuvent apparaître à nos yeux, à l'intérieur de l'Église, comme quelque chose d'essentiellement démocratique ?
Vous savez bien qu'une procédure ne garantit jamais un régime. Donc, une élection, c'est une chose, mais une élection peut être sous influence. Rien n'échappe à l'influence, pas même les élections. En tout cas, ce qui me paraît important dans ce que nous essayons d'observer, c'est-à-dire la mise en place tâtonnante et éternellement à refaire d'un certain nombre d'éléments qui, disons-le franchement, nous plaisent parce qu'ils annoncent un régime que nous aimons. Eh bien, dans cette longue histoire, oui, il est évident que l'élection pontificale va dans le sens de la démocratie. Mais si la procédure nous apparaît comme démocratique puisqu'élective, à partir de 1059, il est décidé que le pape sera élu par le collège des cardinaux, et c'est en 1179 que la loi des deux tiers, ce qu'on appelle parfois la majorité qualifiée, est proclamée pour établir une majorité numérique. Mais il n'empêche que cette élection d'apparence démocratique désigne un personnage qui, une fois élu, est au sommet de ce que l'on a justement appelé une théocratie, c'est-à-dire une monarchie confortée par le fait qu'elle est l'émanation de la volonté divine.
Dans les propos qu'il peut tenir, notamment après son élévation au Saint-Siège, on retrouve parfois cette tension entre la manière dont il a été désigné, l'humilité qui s'enracine loin en arrière, et d'autre part, le formidable pouvoir qui désormais lui est concédé. Écoutez ces propos du pape actuel, Benoît XVI, lors de la messe inaugurale de son pontificat, on est le 24 avril 2005. C'est une correspondance à Rome de Robert Kudelka pour France Inter.
Credo in unum Deum.
Ce matin, le pape Ratzinger, l'ancien austère préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, gardien de l'orthodoxie, l'humble Benoît XVI, a véritablement endossé le poids de sa charge. Dans une longue homélie de 34 minutes, il a conquis le cœur des fidèles qui l'ont interrompu 39 fois pour l'applaudir et pour l'acclamer.
Et ora, in questo momento, io debole servitori di Dio.
Et maintenant, en ce moment, moi-même, fragile serviteur de Dieu, je dois assumer cette charge inouïe qui dépasse réellement toute capacité humaine. Comment puis-je faire cela ? Comment serais-je en mesure de le faire? Vous tous, chers amis, vous venez d'invoquer la troupe innombrable des saints. De cette manière sera vive aussi en moi cette conscience. Je ne suis pas seul. Je ne dois pas porter seul ce que, en réalité, je ne pourrai jamais porter seul. La troupe des saints de Dieu me protège, me soutient et me porte.
Jacques Dallarin, quelle réflexion vous inspire cette rencontre, je crois, topique entre l'affirmation de la fragilité extrême d'un homme et l'importance majeure de la charge qui lui incombe?
On est en pleine archéologie. Vous avez noté la référence aux 39 interruptions. C'est l'acclamation populaire, l'élection traditionnelle de l'évêque de Rome. Il faut que le peuple l'acclame, c'est important. Mais bien évidemment, ce qui est le plus frappant, c'est son discours, où cet homme qui, depuis le XIXe siècle, est doté par le dogme de l'infaillibilité pontificale, met en avant sa fragilité et n'arrive à puiser sa force que dans l'exemple et le soutien des saints. N'oublions pas que depuis Grégoire le Grand, et toujours à l'heure actuelle, le pape signe « serviteur des serviteurs de Dieu »,« servus servorum dei ». Or, lorsque l'on dit cela au Moyen-Âge, sous le terme de « servus », il n'y a pas seulement le serviteur, il y a le « serf ». C'est-à-dire qu'il y a des esclaves. On croise dans les campagnes médiévales des gens qui sont attachés, qui sont la propriété d'un patron attaché à la glèbe. Donc que le pape se proclame l'esclave des esclaves, la traduction la plus juste pour le Moyen-Âge serait l'esclave des esclaves de Dieu, on est dans ces phénomènes de retournement dont nous parlons depuis le début, d'une autorité qui va être absolue et qui se pare des couleurs de l'extrême humilité comme pour s'excuser de cet extrême pouvoir qu'elle va assumer.
Du point de vue du vocabulaire, il y a probablement une réflexion à faire sur l'évolution du terme de ministre, puisque nous nous rapprochons ces balbutiements d'une certaine démocratie de notre système contemporain.
Le ministre, c'est, d'ailleurs, dans l'Évangile, on le trouve très souvent associé, ministère et servus, le ministre, c'est un serviteur. Et je crois que c'est le général de Gaulle qui, en recevant Alain Perfit, lui avait dit « Souvenez-vous qu'un ministre est un serviteur ». Quelques personnages de l'histoire contemporaine ont encore cette mémoire des origines évangéliques et médiévales de ces termes.
Je voudrais que nous en venions maintenant à un cas très particulier sur lequel vous vous êtes penché. Vous êtes penché un des premiers, Jacques Dallarin. C'est une sorte d'expérience de la démocratie en milieu monastique, l'abbaye de l'ordre de Grandmont, qui a prospéré pendant un peu moins de deux siècles, entre 1076 et 1224.
Ce ne sont pas exactement des moines, c'est une communauté d'ermites, et leur chef est un prieur. Vous avez raison, à partir du XIVe siècle et de Jean XXII, qui décide que ce prieur devra revêtir le titre d'abbé. Mais aux origines...
Ouf, j'ai donc raison, mais avec un léger recul.
Vous savez, sur 1000 ans. Mais aux origines, c'est-à-dire les origines, c'est Étienne de Muret, le fondateur de cet ordre de Grandmont, à la fin du XIe siècle. C'est un prieur qui dirige une communauté, qui est en même temps une communauté d'isolés, puisque l'ermite, à la différence du moine, ne vit pas en collectivité, mais seul. Alors il faut imaginer ce qu'on appelle l'ordre de Grandmont, c'est en fait une espèce d'archipel de cellules érémitiques dispersées dans la vaste forêt du Limousin, où les ermites vivent par groupe de moins d'une dizaine, au milieu des bois, et de temps en temps, pour les moments importants de la vie malgré tout collective, comme à la Chartreuse il y a les deux aspects, confluent vers le centre de l'ordre à Grandmont pour prendre les décisions essentielles.
Alors ces décisions sont notamment marquées par la désignation de celui qui aura à conduire la communauté, qui aura, pour que cet archipel garde sa manière d'unité, qui aura régulièrement à être désigné comme abbé. Et il est tout à fait passionnant de voir la manière dont s'organise ce système que l'on peut appeler pré-démocratique et dont on connaît le détail grâce à des textes qui nous sont parvenus après coup.
Oui, c'est la règle de Grandmont qui a été fixée par le quatrième prieur, donc elle n'est probablement pas du fondateur. Je pense que le fondateur n'avait pas besoin de règles, les fondateurs sont des règles vivantes. Les règles se fixent souvent à la fin de leur vie ou même après leur mort, et c'est le cas dans l'ordre de Grandmont. Donc de chacune de ces selles, ces unités érémitiques dispersées dans les bois, viennent deux bons hommes, puisqu'on ne les appelait pas des moines, mais des ermites ou des bons hommes. L'un est un convert, donc un laïc, malgré tout membre de la communauté religieuse, et l'autre est un clerc, donc il a reçu le début des ordres cléricaux, au moins, mais peut-être jusqu'à la prêtrise. Donc ces deux hommes, qui représentent deux catégories, se rendent à Grandmont, au centre de l'archipel, dans l'île Majeure, et ils constituent une assemblée représentant donc toutes les selles.
Et j'observe qu'on demande à ceux qui restent dans les lieux en question, à l'avance, de promettre à ceux qui s'en vont qu'ils se rangeront à la décision de l'assemblée tout entière.
Mais c'est très important, parce que de manière totalement expérimentale, on n'a trouvé aucun modèle pour cette règle. De manière totalement expérimentale, dans un tâtonnement, on est en train de mettre en place les procédures de délégation de pouvoir et de représentativité. C'est tout de même pas mince. Donc ces hommes arrivent, forment une grande assemblée. Au sein de l'assemblée, ils vont désigner un conseil de 12 individus, en respectant toujours la parité des états, un convert et un clerc. Notez que cette parité des états, comme dans les états généraux de 1789, ne correspond pas à l'arithmétique par tête,
mais
à l'arithmétique par ordre. Et donc les 12 élus, dans un suffrage indirect, vont enfin élire le prieur. Mais au moment où ils l'élisent, comment va-t-on procéder au scrutin? Mais il n'y a pas de scrutin. C'est la majeure part qui l'emporte.
Qu'est-ce que c'est la majeure part?
Ah, donc la majorité. Mais non, la majeure part, c'est-à-dire la plus saine. Donc vous voyez, à chaque fois que nous essayons de pousser trop loin la concordance des temps, nous nous retrouvons face à des oppositions, à des déphasages. Tout ce qui est pour nous quantitatif est d'abord au Moyen-Âge qualitatif. La plus grande part, ça n'est pas la plus nombreuse, c'est la meilleure. Mais comment la déterminer? Il y a deux éléments. D'abord, ces hommes sont persuadés que l'élection vient de Dieu, donc il y aura une inspiration divine, un signe, une parole plus forte. Et puis il y a le conseil, ce que l'on a vu avec les moines de Tibérine, la discussion, la palabre, jusqu'au moment où une décision, si possible consensuelle, car si elle est unanime, elle semble davantage émaner de Dieu, les hommes n'en étant que l'écho, le porte-voix, une décision va finir par être prise en échappant à nos règles comptables.
Alors sur cette procédure, à la fois familière et en même temps étrange, au fond, au vu de notre système démocratique contemporain, sur cette procédure, le témoignage d'un frère bénédictin, toujours à l'abbaye Notre-Dame de Tournai, toujours interviewé par Arnaud Laporte dans l'émission Le Pays d'ici, le frère Dominique. Voilà comment il considère cette élection dont le principe a perduré jusqu'aujourd'hui.
Frère Dominique, le système bénédictin, c'est la démocratie idéale ou ça peut virer à la monarchie absolue?
Les deux. C'est en soi une démocratie tout à fait remarquable et qui peut être déviée dans un sens d'absolutisme complet, complet, complet. Démocratie parce que, d'abord, ce sont les moines qui élisent l'abbé. On sait qu'il va y avoir une élection. Donc, il est entendu, même à l'époque où le silence était considéré comme un idéal absolu, on parlait entre soi pour tout de même déblayer un petit peu les choses. Et puis, quand on se réunit, on fait un premier vote blanc où chacun met sur son bulletin le nom de tous les frères dont il désire qu'on étudie la candidature, pas la candidature, mais enfin la possibilité. Il y en a un qui a tous les suffrages ou à peu près, ou bien il y en a deux entre lesquels ça balance, ou bien c'est complètement dispersé, etc. Et là, le rôle de l'abbé qui préside la séance est important. Et puis, on décide d'examiner en communauté tel et tel et tel frère. On fait sortir le frère et tout le monde parle. Et tout le monde parle avec une liberté, un sérieux admirable. Parce que on sait très bien qu'un père abbé qu'on va se donner, ça va peser sur la vie. Alors on ne se laisse pas aller ni à la facilité, ni à des réactions épidermiques. Hein. On étudie vraiment la question à fond. Et c'est très très beau. Très beau. Après quoi, eh bien, le lendemain ou le surlendemain, on fait le vote. Alors là, ça, c'est aux deux tiers. Et c'est certain que là, il y a une espèce de démocratie directe, si vous voulez, qui est possible dans une communauté de 20, 30 et même jusqu'à 100 ou 120. Déjà, au-dessus de 60, ça commence à tourner plus difficilement. Ben là, il y a démocratie directe. Et puis alors, il y a cette chose merveilleuse qui est dans le chapitre 3 de la règle, que le père abbé doit en principe consulter toute la communauté pour toutes les choses importantes. Et le principe de la règle est que, premièrement, tout le monde doit parler. Et la raison que la règle donne est très belle, c'est que Dieu peut s'exprimer par les plus petits. Donc, dans une réunion de communauté, on devrait au moins écouter chaque frère en se disant « Est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous dit ça par sa bouche ?» Et puis, une fois que tout le monde a parlé, c'est l'abbé qui décide. Donc, il n'est pas question de vote dans la règle. Nous en avons introduit, le droit canon nous oblige à en introduire, mais je me rappelle avoir causé avec quelqu'un qui s'occupait de management et d'organisation, qui est venu ici d'ailleurs et qui a regardé comment ça fonctionnait et qui nous a donné des conseils. Et quand je lui ai montré ce chapitre 3 de la règle, il a dit « Mais c'est ça, c'est exactement ça !» Donc il y a tout ce côté démocratique. Puis le fait aussi que, si vous voulez, on est tous égaux, qu'il n'y a pas de classe ni de privilège, en théorie. alors, ça peut dévier, bien sûr, parce que le père abbé, une fois élu, il a tous les pouvoirs. Pratiques, matériels, personnels, spirituels. Il peut vous envoyer où il veut, vous donner le travail qu'il veut, etc. Alors, c'est très facile pour un homme de se prendre pour le bon Dieu.
Beaucoup de choses, me semble-t-il, Jacques Dallarin, dans cette archive, si elle sert à éclairer les rapprochements qui sont à la base de cette émission entre notre démocratie contemporaine et ce qui s'élabore au Moyen-Âge.
Oui, alors, c'est un témoignage passionnant, et puis on voit à quel point il est vécu de l'intérieur par ce frère Dominique. Et ça n'est pas exactement la règle bénédictine originelle. Il y a toujours des mises à jour. La première chose, c'est que, dans ce que je comprends, dans cette abbaye de Tournaille, l'abbé n'est plus abbé à vie, comme dans la plupart des monastères bénédictins aujourd'hui. Il a un mandat à durée déterminée. Donc l'ancien abbé préside à l'élection du suivant. Ça ne veut pas dire qu'il en décide. Il est bien dit que la décision est du fait de la communauté et sur des bases numériques. En revanche, quand il y a dans la vie de la communauté une décision à prendre, comme on l'a vu pour les moines de Tibérine, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part, est-ce qu'on fait venir l'armée ou pas? Là, la décision doit être collective. Alors, vous voyez à la fois les mises à jour sur la durée du mandat et sur le fait qu'on n'est plus dans la part la plus saine, mais vraiment dans la majorité au sens arithmétique.
Et qualifié, il rappelle
que c'est qualifié, les deux tiers, comme pour l'élection pontificale depuis le XIIe siècle. Mais ce qui est très bénédictin, alors profondément bénédictin dans l'esprit et dans la durée, c'est le rôle de la parole dans cet ordre du silence. C'est tout de même de la parole collective que va naître la lumière. Ça, c'est très beau. Vous savez que ces sociétés traditionnelles sont des sociétés de la longue parole, de la délibération, jusqu'à trouver le point de consensus. Ce qui ne veut pas dire qu'on est tout de suite consensuel, il y a des conflits. Mais de la parole devrait finir par émaner la décision juste.
Vous parliez de palabres en référence à l'Afrique, par exemple.
Oui, il y a un grand nombre de sociétés traditionnelles où cette parole permet de décanter et de résoudre. Ce qui est très beau et très bénédictin, c'est le fait qu'il n'y a pas de rang. Le seul rang qui existe dans une communauté bénédictine, en dehors de l'abbé, qui a été élu par les frères, c'est l'ordre d'entrée dans la communauté, indépendamment des dignités sociales et même indépendamment de la prêtrise ou pas, de l'appartenance au clergé, au sens des clercs, ou pas. Et le fait qu'il y ait cette prise de parole partout, c'est que la parole inspiré puisse venir du plus petit. Vous voyez, là, on est dans des logiques différentes des nôtres. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est la notation sur le nombre. parce qu'en réalité, la démocratie directe en petite communauté, s'il n'y a pas quelques personnages particulièrement manipulateurs, c'est jouable. Mais c'est le nombre qui pose problème. Et tous les fondateurs d'ordre, à un moment ou à un autre, sont rattrapés et écrasés par leur succès. Jusqu'à, le frère Dominique le dit très bien, jusqu'à 60, ça va. Au-delà, ça commence à être difficile.
Mais on peut commencer d'imaginer deux niveaux de délibération, puisqu'on élit, comme c'était le cas à Grandmont, on élit des représentants qui, à leur tour, vont en élire d'autres. Et on est déjà dans le système de cette démocratie représentative.
Alors évidemment, on peut passer à des systèmes représentatifs. À l'intérieur même de l'ordre bénédictin, la réforme de Cîteaux, les cisterciens le font, puisqu'ils tiennent des chapitres généraux regroupant les abbés des différentes abbayes. Et là, il y a une sorte de parlement supérieur de ce réseau d'abbayes. Mais vous savez ce que dit Rousseau de la démocratie indirecte, c'est déjà priver le peuple de sa souveraineté.
Les ordres extérieurs, ce qui existe dans la société qui entourent ces institutions ecclésiastiques, continuent néanmoins de peser, puisque Grandmont, finalement, a disparu à cause de l'opposition entre les convers et les clercs.
Alors, Grandmont a beau être un désert, un archipel, il n'est pas à l'abri du monde. Le succès de Grandmont est venu en grande partie du soutien des rois d'Angleterre, et en particulier d'Henri II, qui les a accablés de donations, ce qui est à la fois un signe de succès, mais le moment où l'esprit originel est en risque de se perdre. L'histoire de Grandmont, oui, est une histoire qui est marquée par les conflits et les crises. Cette décision originelle de la règle prêtée à Étienne de Muret, le fondateur, la règle de Grandmont, de confier le gouvernement temporel aux convers, c'est-à-dire au statut le plus humble, a créé des combats interminables.
Toujours le principe de l'inversion. C'est-à-dire
principe du renversement des rôles, hein, le principe de Marthe et Marie. Les clercs vont être de purs contemplatifs, tandis que les convers d'un rang social inférieur et surtout d'une éducation inférieure, et non pourvus des ordres cléricaux, les convers vont administrer, donc en réalité gouverner, avoir le pouvoir quotidien. Et ça a été à l'origine de nombreux conflits. Robert Chanot les a très bien décrits dans un livre récent sur l'ordre de Grandmont. Et ce qui fait qu'à la période moderne, Grandmont décline et se trouve disparaître 2 ans avant la Révolution française. Voilà un ordre monastique qui n'a pas attendu 1789 pour disparaître, puisqu'il s'est éteint en quelque sorte de lui-même en 1787, supprimé par la monarchie.
Mais je comprends que dès le XIIIe siècle, en réalité, le déclin est très clairement en marche et que c'est au fond un peu de l'extérieur, cette opposition de classe, qu'est venue cette sorte de déchirement intérieur.
Il y a de cela. Il y a un côté, gouvernement du prolétariat. Mais vous voyez à quel point on est dans l'anachronisme. Mais ça a été très difficile à vivre, c'est ce que l'on peut en dire.
Si on considère la grande aventure franciscaine sous cet éclairage qui est le nôtre, c'est-à-dire François d'Assise, l'ordre des mineurs à partir du XIIIe siècle, quelle est la différence et quelle est la rupture? C'est une autre forme de démocratie égalitaire, vu d'aujourd'hui, non?
Il faut effectivement toujours tenir compte de deux dimensions, c'est-à-dire la démocratie, ça n'est pas simplement une procédure. Le problème est aussi celui de l'assise sociale. Qui a droit à la démocratie? Athènes, le modèle démocratique, je vous rappelle, c'est une fraction infime de la société qui participe aux élections à côté des esclaves et des métèques qui, eux, n'y ont pas droit. Comme modèle de démocratie, j'aime autant Grandmont, ou en tout cas, je ne ferai pas de concours.
Et à Rome, le principe du chiffre se mêle au principe de l'équilibre des ordres et de la domination des groupements les plus puissants de la société, les plus riches.
Oui. Alors, dans l'utopie franciscaine, il y a l'idée que, quel que soit le statut personnel, chacun des frères a exactement les mêmes droits, qu'il soit clair ou qu'il ne soit pas clair. Ça, c'est vraiment le principe de base de François d'Assise, qui a fini lui-même par devenir clerc, diacre, mais qui, à l'origine, est un simple laïc. Au départ, ce sont des pénitents laïcs.
C'est le principe même de la République.
Mais tout à fait. Et c'est aussi retrouver l'origine de l'esprit bénédictin, de la règle bénédictine avant que l'ordre bénédictin ne devienne une puissance, quand c'est le principe communautaire qui est au centre du dispositif. Il y a donc le même esprit au départ, tout membre de la communauté a le même droit à la parole et à la prise de décision, mais lorsque l'on regarde la règle de François d'Assise, celle de 1223, la règle qui est approuvée par la papauté, on se rend compte qu'il y a deux nouveautés qui, par rapport à la tradition bénédictine, qui sont tout à fait importantes. D'une part, le mandat du ministre général peut être viagé, mais il peut aussi être remis en cause à chaque chapitre. Donc, il n'y a plus cette longévité de la responsabilité suprême. Et d'un autre côté, c'est lié, les frères ont le droit de faire jouer la clause de conscience, c'est-à-dire de ne pas obéir à un ordre qui leur paraît aberrant et de dénoncer le supérieur qui leur paraît mettre en péril l'esprit de la communauté.
Sans forcer le trait, on peut peut-être rappeler que les fonctionnaires de la République ont le même droit de désobéissance aujourd'hui, par rapport à un ordre qui leur paraît contraire aux principes fondamentaux de la République et de la démocratie.
Et jusque dans l'armée, vous savez. Oui, non, c'est un principe vraiment essentiel qui est mis en place au XIIIe siècle dans l'ordre franciscain. La clause de conscience est petit à petit, on s'oriente vers un aspect contractuel et temporaire des responsabilités. Car frère Dominique le disait tout à l'heure, quand l'abbé est élu à vie, il peut devenir un tyran à vie. Et pour les autres, ça dure très longtemps.
Cette idée de la révocation, qui est aussi une idée très, très démocratique, apparaît dans le paysage monastique que vous décrivez pour nous, Jacques Dallarin.
À Grandmont, je crois que dans le courant du XIIe siècle, les trois quarts des prieurs n'ont pas tenu leur charge jusqu'au bout de leur vie. Ils ont démissionné ou ils ont été démissionnés.
Donc la base peut abréger le mandat et cela change tout. Et cela est très démocratique aussi, au moins de notre point de vue contemporain.
Absolument, et c'est une... Vous savez, ce qui me plaît dans ces expériences qui ressemblent à de la démocratie médiévale, c'est précisément leur côté expérimental. C'est-à-dire, on voit bien l'aspect tâtonnement. Il n'y a pas de règle a priori. La règle de Saint-Benoît, qui est fixée à un moment, va être perfectionnée, transformée, modifiée, adaptée. C'est ça, je trouve, qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a véritablement, et c'est collectif, il y a une mise au point progressive de procédures dans lesquelles, pour finir, nous nous reconnaissons.
C'est bien pour ça que j'ai souhaité cette conversation ce matin. Je ne suis pas tout à fait sûr que les tâtonnements aient complètement disparu. On peut même se demander si les tâtonnements du principe de la gouvernementalité ne sont pas intrinsèques à la démocratie elle-même. On n'arrive jamais au système idéal.
Mais non. Et c'est la démocratie est une invention permanente. Et si on ne croit, et ça veut dire aussi une vigilance permanente. Et si on ne croit pas cela, on croit en un modèle démocratique
fixé, figé et dangereux.
Figé et dangereux.
Il y a quelqu'un, un personnage considérable de notre XXe siècle, qui a beaucoup réfléchi à cette question du pasteur, de l'invention d'un nouvel art de gouverner au Moyen-Âge, c'est Michel Foucault. Et je voudrais vous faire entendre, pour clore notre conversation, Jacques Dallarin, un extrait d'un cours qui remonte à février 1978, au Collège de France, bien sûr.
Or, bon, dans l'Église chrétienne, on va voir au contraire ce thème du berger, en quelque sorte s'autonomiser par rapport aux autres, n'être pas simplement une des dimensions ou un des aspects du rapport de Dieu aux hommes, ça va être le rapport fondamental, essentiel, non pas simplement un à côté des autres, mais un rapport qui enveloppe tous les autres. Et deuxièmement, ça va être bien sûr un type de rapport qui va s'institutionnaliser dans un pastorat qui a ses lois, ses règles, ses techniques, ses procédés, etc. Donc le pastorat va devenir autonome, va devenir englobant et va devenir spécifique. Du haut en bas de l'Église, les rapports d'autorité sont fondés sur les privilèges et sur les tâches en même temps du berger par rapport à son troupeau. Le Christ, bien sûr, est pasteur, et c'est un pasteur qui se sacrifie pour ramener à Dieu le troupeau qui a été perdu, qui se sacrifie même non seulement pour le troupeau en général, mais pour chacune des brebis en particulier. On retrouve là le thème mosaïque vous savez, du bon berger qui accepte de sacrifier tout son troupeau pour aller sauver la seule brebis qui est en danger, mais ce qui n'était qu'un thème dans la littérature mosaïque va devenir maintenant la clé de voûte même de toute l'organisation de l'Église. Le premier pasteur, c'est évidemment le Christ. L'Épître aux Hébreux le disait déjà. Dieu a ramené d'entre les morts le plus grand pasteur de brebis, notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous sommes au sein de cette fresque très vaste qu'a brossé Michel Foucault, de l'Antiquité à la Modernité, par un effet qui peut paraître un peu imprévu, la marche de sa pensée. Le Moyen-Âge se révèle comme central et décisif avec cette image du berger qui prend toute sa force.
C'est très étonnant, c'est un très beau passage. C'est le cours du 8 février 1978 où Foucault a la grippe, où il dit à la fin « Je suis encore plus vaseux que d'habitude », je cite, et où, peut-être à cause de ces conditions de la création romantique, la fièvre, il écrit une des très très grande page de son œuvre orale avec ce thème du pastorat. Foucault s'interroge sur la gouvernementalité. Il cherche l'origine de la gouvernementalité. Et au fond, on s'obsède toujours sur l'État. Mais ce qui est important, c'est la manière dont on est gouverné. Et il découvre que cette manière de gouverner qui est la nôtre a non pas ses origines du côté de la souveraineté romaine, de l'imperium, mais du côté de la Bible, du côté de la figure du pasteur, du berger. Il dit, finalement, on découvre que la manière dont on est gouverné, c'est une affaire de bergerie. Tradition mosaïque, entendons, de l'Ancien Testament, vétérotestamentaire, mais totalement réactualisée, revivifiée par la figure du Christ et par la parabole du bon pasteur. Car être le bon pasteur, on est dans un autre conte, une autre arithmétique, c'est abandonner les 99 brebis qui vont bien pour aller chercher la centième. J'ai toujours été terrifié par cette parabole. Je me suis toujours demandé ce qui pouvait arriver aux 99 autres. Et Foucault montre que c'est cela, l'emprise qui se substitue à l'empire. Car ce pastorat est admirable. Il repose sur le dévouement du berger qui va jusqu'au sacrifice. Le pasteur suprême, le Christ, finit en croix. Il a donné sa vie pour son troupeau. Mais en même temps, il substitue l'emprise à l'empire. C'est-à-dire qu'on n'est plus surplombé par un pouvoir, on est englobé par un pouvoir, on est englué par un pouvoir. Et Foucault dit plus loin que ce qui est terrible avec la gouvernementalité, c'est qu'on ne peut pas se révolter contre elle, puisqu'elle est en dessous de nous, elle nous prend, elle nous enrobe. Donc, à la fois, ce modèle du dévouement, ce jeu de l'humilité qui va jusqu'à la mort, que nous retrouvons depuis le début dans tous nos textes de la règle de Saint-Benoît à Grandmont, à l'expérience de François d'Assise, mais en même temps, et d'un certain point de vue, tout ce que nous venons de dire n'est jamais que l'illustration de ces quelques minutes de la parole foucaldienne, mais en même temps, ce que Foucault montre, admirable, oui, mais redoutable, car on ne se rebelle pas contre celui qui se dit être votre serviteur.
Avec, me semble-t-il, dans un même mouvement, une interrogation fondamentale en démocratie. Vous parlez de la centième brebis. La démocratie doit-elle servir d'abord le grand nombre, la majorité, ou bien se préoccuper de la déviance, de la diversité, du malheur individuel? Cela n'a pas cessé d'être assez actuel et peut renvoyer aussi à ces comportements de l'Église catholique au Moyen-Âge dont nous avons parlé depuis une heure.
Il y a dans notre vie démocratique contemporaine des traces très puissantes de gouvernementalité. Lorsque les candidats, lors d'une élection, vous disent qu'ils vont s'occuper des problèmes de chacun. Ça, c'est du pastorat, ça, c'est de la gouvernementalité.
La culture pour tous ou la culture pour chacun?
J'ai tendance à considérer que le bien commun, ça n'est le bien de personne en particulier. Mais c'est très dur à dire à des électeurs.
Je voudrais, pour finir, Jacques Dallarin, m'interroger à la fin de cet échange sur ce que cela peut nous apprendre quant à la compatibilité d'une religion qui surplombe et d'un fonctionnement électoral. Vous avez bien compris que je m'interroge sur les révolutions arabes actuelles.
Mais bien évidemment, et vous savez, même si je n'en dis pas un mot, en écrivant mon petit livre, j'y ai beaucoup pensé. Parce qu'au fond, si on se réfère à la démocratie comme un modèle intangible et intemporel, on ne peut, comme dans une dictée, qu'avoir des fautes par rapport à la démocratie. Et c'est le péril de cette très belle démocratie athénienne, par ailleurs, quand elle est propulsée en modèle intemporel. Si on est attentif à ces efforts tâtonnants de démocratie dont nous venons de parler, alors c'est plus le problème des origines qui se pose, c'est le problème de l'éclosion. Et c'est là où je dis que la démocratie est à inventer chaque jour, mais c'est là où je dis aussi que la démocratie ne peut ni s'importer ni s'exporter, qu'elle dépend de la responsabilité de chacun. Et nous n'avons pas à avoir pour les autres la réponse démocratique à leurs problèmes. Même si leur décision ne nous convient pas, c'est précisément cela la démocratie. C'est que la décision leur revient. Quant à savoir si la religion et la démocratie sont compatibles, nous ne sommes pas choqués de penser que l'Allemagne est gouvernée par quelqu'un qui est une éminente représentante de la démocratie chrétienne. Donc, ayons pour les autres cultures la même ouverture d'esprit que nous avons pour nous-mêmes. Nous ne l'avons pas toujours.
Mais dans le même temps, cette Église catholique qui a été la matrice, nous l'avons montré pendant toute cette émission, une des matrices de la démocratie a été pendant longtemps, je pense notamment au XIXe siècle, très hostile aux effets du suffrage universel, à la modernité des systèmes contemporains de la démocratie. Complexité, non ?
Mais bien évidemment, et jusqu'au toast d'Alger, au ralliement tardif.
Comment c'est dire la Vigerie ?
À la oui. République. Mais bien sûr, il y a au sein même, il ne faut jamais réduire, vous l'avez dit d'entrée, il ne faut jamais réduire une institution aussi polymorphe que l'Église à une unique procédure. Il y a dans l'Église une composante théocratique très forte. L'Église a été l'alliée d'une monarchie absolue de droit divin pendant des siècles.
Tension qu'on peut et qu'on doit probablement retrouver du côté des pays qui sont au sud de la Méditerranée et qui sont actuellement secoués par des mouvements aussi précieux qu'ambivalents.
Dans lesquels se pose la question de la cohabitation entre une religion dominante et une procédure démocratique. Oui, c'est une question forte, et là je crois qu'il faut simplement être réaliste. La démocratie est en train de se faire, je le souhaite de tout cœur, dans un certain nombre de pays au sud de la Méditerranée. Elle ne se fera pas, dans une phase en tout cas, sans la religion qui est dominante dans ces pays-là.
Merci beaucoup Jacques Dallarin. Ce que vous appelez modestement un petit livre est un ouvrage important, intitulé « Gouverner, c'est servir », essai de démocratie médiévale, paru chez Alma Éditeur tout récemment, en 2012. Vous avez également dirigé un livre qui s'appelle « François d'Assise, écrit, vie, témoignage » aux éditions du Cerf. Nous avons parlé de François d'Assise, chemin faisant, un livre de 2010. Je voudrais signaler aussi un article important que vous avez donné à la revue L'Histoire en juin 2012, « Moyen-Âge, la démocratie au couvent ». Samedi prochain, nous resterons dans les tonalités graves. Nous parlerons à propos des suicides si nombreux que l'on nous rapporte, qui traduisent un grand malaise contemporain, nous parlerons du suicide au XVIIIe siècle, se donner la mort avec Dominique Godinot.